from IDOT. Ken Moore, who handled the question and answer, because he can hear the question better than I can, would be referred to the appropriate individual on the board or from the management.
Thank you, Claudio. So the question and answer period, the rules and regulations concerning the Q&A have been established by the ministry, and they're in our bylaws. Vous avez peut-être vu sur le site web que la période des questions va durer 30 minutes. Les gens qui veulent demander des questions doivent les inscrire à l'avance du meeting et nous avons 6 ou 7 questions qui ont été données avant le meeting. Fait que je vais commencer par la personne qui a posé la première question et on suivra. Le business, les questions sont, il faut qu'ils soient concernant les affaires de l'institution, excusez-moi. And each question and discussion cannot take more than 10 minutes. So we start with the first person, Madame Tranquille. Vous êtes toujours ici. J'aimerais que chaque avancez, s'il vous plaît, au micro, vous identifiez et vous représentiez qui, si c'est la question. Merci.
Bonjour. Mon nom est Céline Tranquille. Je suis représentante syndicale pour le SPRCCR, qui est le syndicat des professionnels en soins infirmiers et cardio-respiratoires du CVSA. Alors, ma question, c'est le taux d'absence maladie du personnel, particulièrement pour des diagnostics de santé mentale, a beaucoup augmenté au CUSM depuis l'an passé. Alors, ceci est relié en grande partie au fardeau de tâche sur les unités de soins. Alors, j'aimerais savoir, est-ce que vous avez un plan d'action pour contrer ce phénomène qui est préoccupant? Merci.
Merci pour la question. Je vais inviter M. Richard Fahey, le directeur des ressources humaines, de communication et affaires juridiques, à répondre à la question.
Bonjour. En fait, c'est tout à fait vrai. Nos taux sont en augmentation. La bonne nouvelle, c'est que le CUSM, dans le réseau, est parmi les plus performants. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Malheureusement, on a dépassé la marque du 5% de taux d'absence. Ce qu'on constate, c'est que le même phénomène existe ailleurs dans d'autres établissements. Okay? Et c'est généralement lié à des questions de santé mentale. Donc, c'est pas des enjeux de CSST ou des accidents de travail. Donc, on est en mesure d'identifier la cause. Donc, oui, il y a un plan d'action. Il y a des suivis qui sont. Vous savez, on a initié un processus de résolution de conflits proactifs. Donc, on essaie, avant que les enjeux dégénèrent, que ce soit sur une unité de soins ou ailleurs, sur un département, d'intervenir a priori. Donc, ça, c'est un élément. Il y a aussi toute la stratégie de wellness qui intervient. Donc, on essaie de faire en sorte que les employés aient un climat de travail positif. C'est sûr que dans le réseau, le contexte est difficile, il est pour tout le monde, mais on sait que nos employés sont dédiés à la tâche, qui travaillent fort, et on essaie de rendre ce travail-là le plus favorable possible avec différentes mesures.
Sorry. Thank you, Richard. Merci, Richard. Ça va, Madame Tranquille? Okay, merci. Second question is from Angelica Piesek. Piesek, I'm sorry.
So, good evening. My name is Angelica Piesek. I'm the Vice President, Committee on Care at SPSICR, the Category 1 Union here at the NURC. So about a year and a half ago, to ensure adequate and safe coverage of patients, the NURC administration set specific healthcare patient professional to patient ratios. Today, for budgetary reasons, these ratios were modified so as to increase the number of patients per healthcare professional. Are the members of the Board of Directors in agreement with this decision? And what are your thoughts on patient safety and care at the NUHC? Thank you.
just want to say, as you mentioned, it for a year and a half we started revising the nurse patient ratio, the team, the care team, and we have adjusted over time. And recently we continue to make some adjustments with this budget exercise, but it's a little bit of tweaking. You know that it's and it's in continuity with what we've done. Your question is about safety. As you heard today, is we always safety is at the heart of everything we do. At the MEHE, we try to measure what we do, and for the last year and a half, we measure medication error, fall, you saw the control of infection. So those are the indicators we monitor. At this point, we haven't seen that there's changes, and actually it's going better in some of the indicators. And we benchmark and continuously try to see that it tailors the patient needs. So it's not one size fits all. We really look at different ratio for different populations, ICU, complex care, pediatric. So I think we are really conscious and prudent because the most important thing is patient safety. And that's going to be continuous work. And as we share with you this information too, it's very important that we work together to ensure that we're working together. Can you hear me?
Yeah. Yes.
So the exercise to decrease the shortfall, the financial shortfall that we are facing, we are looking at every aspect of our performance. André and Saucier and her leadership group have looked at the comparable institutions and how they manage similar situations, and we are learning from their solutions. There's also the fact that at the Glen, at first, we were learning to work in a new environment, and we can now make those changes. It's an ongoing process, and we are obviously looking at being optimal to bring the savings that are associated with it, where we need to provide the care and to give good quality and safe care. And that's
Thank you, Martin. Okay. Thank you. Third question, Pierre Lotto, I think I saw Pierre.
Bon, d'abord, je veux remercier l'ensemble du conseil pour avoir entendu notre appel et faire en sorte que les assemblées soient de plus en plus publiques. Alors, je vous remercie beaucoup. La question, pour fin de clarité, je vais la lire. Très récemment, nous avons tous entendu de la bouche de la plus haute autorité ministérielle que les administrateurs du PUSUL étaient incapables de gérer les services à l'intérieur du cadre financier qui leur est dévolu et que les médecins du PUSUL étaient en partie responsables de ce débordement. Cela allait entraîner une sanction qui se traduirait par une autre coupure de 10 millions s'ajoutant aux 28 millions déjà prévus. Il n'est plus possible de prétendre que les services aux usagers ne seront pas affectés. Les soignants sont à bout de souffle et s'inquiètent de l'impact sur la qualité et la sécurité des soins. Il y a eu des pétitions provenant des infirmières et des préposés. La question, c'est la suivante. Vous, comme administrateur, et j'inclus tous les gens qui sont sur le conseil, aussi ceux qui préside aux différents conseils, et à l'instar de d'autres établissements, quand allez-vous rompre le silence et dire « assez, c'est assez, car ce n'est plus possible »
Alors, le budget de l'hôpital du Centre universitaire de santé McGill est de 900 millions de dollars. C'est vrai que nous avons un enjeu et nous avons expliqué dans la présentation que nous sommes à 75% de trouver des solutions pour le le manque à gagner auquel nous faisons face. Il faut continuer à travailler parce que le budget doit être équilibré. Le 10 millions de dollars dont vous parlez, c'est en lien avec des secteurs d'activité clinique où il y a plus de patients que ce que le plan clinique avait prévu à l'origine. Ce sont soit des traitements qui n'existaient pas à l'époque où le plan clinique a été élaboré, ou alors qu'il y a des patients qui viennent, par exemple, dans les salles d'urgence, qui affluent vers nos établissements, nos installations. Nous sommes en train de faire l'analyse détaillée de chacun de ces secteurs-là pour comprendre l'impact financier, pour comprendre les besoins cliniques qui sont représentés dans ces secteurs-là et de chercher une solution. Lors de nos dernières rencontres avec le ministère, où il y a là une discussion financière et clinique, parce que la clinique, c'est notre core business, on a souligné ces enjeux-là et nous avons convenu de réunir de l'information, de bien comprendre la situation et de la retenir. C'est clair que pour l'augmentation des volumes, donc les services que nous offrons, qui sont pertinents, qui sont donnés au bon coût, il faut qu'on trouve une solution pour ces patients-là, pour qu'ils continuent à recevoir des services.
Okay, Pierre. Thank you. So the next question, I have two questions. One is from Cedar Randas, and I believe it's the same question from Rosalind Halverson. So either of you wish to ask the question?
Hi, I'm Cita Brandes from the NUHC Central User Committee and the FAF. So the question is on behalf of those two committees. The first one was already answered, by the way, was when will the consultation process formally start, given that a person was designated to oversee it almost 3 weeks ago, and how will it engage the members of the various user committees?
Thank you for this question. So Mrs. Sundberg presented earlier the MUHC process that started last May, that will intensify in the coming weeks, and that will include all of the stakeholders that were presented earlier. You are also referring to the announcement that Dr. Barrett made on October 19th that Dr. Arvind Joshi would lead a consultation process. We have had confirmation that Dr. Joshi will start this process, but we have no other detail at this date. So we do not know the process nor the start date, but we believe that we'll get those details soon.
Okay, Sita. So the next question I have, and I have to apologize again, I'm just going to stay with Bridget because I can't read the second name. I'm sorry, so please come back to the mic.
It's Bridget Blackadder. I also am a member of the Patients Committee down at the Glen, among many other things, and my question is really something of a follow-up to the immediately previous one. I'm not asking what the status and how the consultation process will proceed. I am asking when and how many user committee representatives will be part of the consultation process. To date, there has been total silence and a strong indication that we're not there at the table. We need to be there at the table.
So I believe three things. I will answer the first two, and I will invite Patricia Lefebvre to give additional details. We were present, Patricia Lefebvre and myself, at, I believe, was the last users committee, and we have said that the users are partners in the care that are offered and will be part of any process that the MUHC will be part of or lead. So that clearly the users will be part of it. In one of the slides, and maybe we can come back, Tina, can we come back to the slide where we see the stakeholders and So Sandberg's presentation, we see that the patients are there, and okay, this one. So the patients are on top there, and clearly will be part of this process. We have adopted the patient partenaire philosophy, and all decisions that will be made now will be made in partnership with patients.
Okay, so our voice will be heard.
Your voice will be heard.
Thank you.
Thank you. And the last question, there may be several questions here, goes to Sandra Etienne, if she is still here. And I believe you're representing yourself, is that right?
Usually I would say after four, but before four, I'm a union representative de l'Alliance Professionnelle Technologue de la Santé et Technologue et du Professionnel. Je veux dire, durant la présentation, on a entendu que le service à la population est une priorité. J'en suis ravie. Que donner un service de qualité à la population, c'est une priorité au CSM. J'en suis ravie. Mais je me dis, considérant les coupures, les grandes coupures budgétaires pour atteindre cet équilibre budgétaire, et considérant le nombre élevé d'abolitions de poste chez nos technologues et professionnels de la santé aussi, je me dis et je me demande comment le conseil d'administration peut nous assurer et rassurer ainsi que la population sur la qualité et la continuité des services justement auprès de la population. Ça, c'était ma première question.
Okay. Merci, merci. S'il vous plaît. If I can just say two hats. PDG, interim and board member.
Pleasure. So it's clear that we are undergoing a large transformation because we have chosen to address the budget challenge by looking at the performance. So we are looking at every process and every way we offer care.
Je peux peut-être devrais répondre en français puisque vous avez posé la question en français. Alors c'est clair qu'en regardant la performance, on demande à chaque groupe de regarder sa façon de faire et de revoir sa façon de faire. C'est certain que nous voulons garder les gens qui ont l'expertise auprès de nous et continuer à travailler avec eux. Il est clair par contre que dans les secteurs où on peut faire différemment, on espère que par attrition et pas autrement qu'on pourra amener les choses où elles ont besoin d'aide. Je vois par votre réaction que vous n'êtes pas certain que ce sera le cas. C'est ce que nous allons devoir surveiller. L'autre chose, c'est que tous les changements qui sont apportés doivent maintenir et parfois même rehausser la qualité des services que nous offrons. Demain matin, on réunit tout le leadership clinique et administratif. Et c'est sûr que les conversations avec les syndicats devront continuer pour regarder comment on va faire le monitoring des impacts, qu'on espère souvent positifs, des transformations qu'on continue à implanter. Alors, qu'est-ce qu'il faut surveiller pour s'assurer que la qualité demeure excellente ou même qu'elle s'améliore dans les cas où c'est possible? C'est ce qu'on va faire. Alors, on va suivre des indicateurs. Il y a déjà dans l'entente de gestion, dans les tableaux de bord des différentes unités et des différents directorats, des indicateurs de qualité des services qu'on doit continuer à surveiller. Merci. Patricia, peut-être que tu veux ajouter.
Donc, comme mentionnait Martine, on avait également mis en place par le comité de sécurité des patients le tableau de bord qui monitorait la sécurité des patients avant la transformation, pendant la transformation, et on est un an post-transformation. On mesure ces indicateurs-là qui nous avaient été donnés par les cliniciens et à une des présentations de COCOR, on a présenté que dans les indicateurs qui avaient été choisis par les cliniciens, en ce moment, on a maintenu, dans certains cas, on a amélioré la sécurité des patients. Alors, on le suit, on suit la tendance, on est allé jusqu'à 4 ans, on est maintenant juste un an post-transformation et demain, on complète ce tableau-là pour s'assurer qu'en fonction des nouveaux plans, on s'assure de bien monitorer. Ces données-là sont retournées aux gens qui font les plans pour le plan de retour à l'équilibre et on travaille avec eux pour faire les ajustements dès qu'on voit qu'il peut y avoir quelque chose à surveiller.
Merci Patricia. Votre deuxième question, s'il vous plaît.
C'est en lien avec les fusions. On a reçu l'information donc, que vous avez été rencontré par le ministre lors d'une consultation publique le 28 octobre. Je voulais savoir quelle est la position de l'administration sur l'éventuelle fusion avec le CIS entre Ouest de l'île et l'Ouest de l'île. Merci.
We'll start the answer and members of the board can continue. Alors, le 19 octobre dernier, Dr. Barrett, le ministre de la Santé, a réuni les conseils d'administration des trois établissements voisins que nous sommes, le CIUS de l'Ouest, le CIUS Centre-Ouest et le CUSM. Étaient aussi invités les présidents des fondations associées aux établissements, à ces établissements-là. Et une présentation a été faite des visions qui avaient été exprimées pendant le concours qui travaillait à identifier le prochain PDG pour le CUSM. Alors, c'est dans ce contexte-là que la conversation a continué le 19 octobre dernier. Je vais m'exprimer au nom du leadership. Le CUSM souhaite réfléchir dans un processus robuste et inclusif avec les gens de l'interne, qui inclut tous les groupes qui sont ici à l'écran, de même qu'avec les partenaires de notre réseau, à la meilleure façon d'offrir les services aux patients que nous recevons déjà et aux patients que nous allons continuer à recevoir dans le futur. C'est important de le regarder de la perspective de la population. C'est aussi important de le regarder de la perspective de notre mission académique. Nous faisons ici de la recherche. Donc, il y a des nouvelles façons de faire, du nouveau savoir qui est développé, des nouvelles innovations qui doivent être offertes. Et dans cette perspective-là, de même que dans notre mission d'enseignement, que nous devons continuer, en partenariat avec l'Université McGill. Alors, tout ça doit être tenu en compte. Il n'y a pas de solution identifiée à ce stade. Pour ce qui est la meilleure chose pour le CUSM, ce sera le résultat d'une réflexion et d'un processus inclusif. Et c'est ce que nous voulons au CUSM.
Merci beaucoup, Martin. So, Mr. Chairman, that brings us to the end of the Q&A.
Okay. Well, thank you very much. This is the first time that we've tried this Q&A in this format, which the government regulated. And for those of you that took the time to come here and pose a question before the meeting, thank you all very much. Questions are valid.